Donc aujourd'hui, on m'a suggéré un titre, Adaptation au changement climatique en zone côtière, les atouts de la recherche participative. Je vous dis qu'on me l'a suggéré parce que donc je vais parler de ça avec un peu un boniment de vendeur, mais l'objet à vendre m'a été suggéré de l'extérieur et c'est très chouette. Donc la présentation que je vais faire en fait est quelque chose qui a été présenté à Brest dans le cadre d'un atelier conjoint avec le pôle Europe, l'Europol Mer à Brest. Et puis c'est le résultat d'un travail, résultat préliminaire d'un travail qui est construit dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Theseus, avec mon collègue Juan Bastan à l'OVSQ, et puis avec notre doctorant Idriss Aoumarkhane qui est aussi à l'OVSQ. Alors, aujourd'hui j'avais décidé un peu de parler des défis pour l'adaptation au changement climatique en milieu côtier. Vous verrez que je serai très rapide là-dessus, beaucoup d'entre nous les connaissent, on en a vu des images, on construit des imaginaires à ce sujet, ces imaginaires sont relativement en congruence avec la réalité observée, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de passer des heures à parler de ça. Puis je vais vous parler un peu des défis pour l'analyse de cette adaptation, et là je vais faire un lien explicite avec le premier atelier du GIS auquel j'avais participé et auquel j'avais fait des observations plus ou moins bien reçues, et donc ces observations n'engageront que moi. Puis je vais venir sur le corps, je vais parler des risques, d'où on en est dans le débat sur les risques actuellement, et puis je vais vous présenter des résultats d'un terrain conduit à Santander en Espagne sur la côte atlantique, qui est un terrain plein d'enseignements et assez facile à présenter comme ça. Je vais synthétiser les résultats en termes de recherche-action. Et je conclurai en parlant de la place de la recherche-action participative face à ces résultats. Alors, quelles sont les questions centrales auxquelles nous faisons face? Alors, j'ai changé d'ordinateur et donc tout ce qui est rouge est devenu noir. Pas très grave. Je m'en sortirai sans. Donc, la question centrale, c'est que des changements en élévation du niveau marin, enfin l'élévation du niveau marin, des changements en termes d'exutoire à l'embouchure des rivières ou de débit de rivière et d'extrême climatique, cela combiné avec des croissances de population et une augmentation constante du capital investi en zone côtière, eh bien, augmente la nécessité de faire les villes, mais aussi en fait les non-villes, des lieux climate proof. Alors ça c'est une petite citation tirée des travaux d'Ariane Wardecker, à qui on a commandité à Utrecht un travail sur Rotterdam et qui a poussé très très loin l'analyse de comment, avec la connaissance actuelle, on peut essayer de rendre une ville comme Rotterdam climate proof. Et donc ce que je dis ici, c'est qu'on est en fait à la recherche d'une stratégie d'adaptation, mais c'est une stratégie d'adaptation très particulière, et c'est une des choses qui m'agace moi dans le discours sur l'adaptation, c'est une stratégie d'adaptation par le renouvellement de la gestion des risques suite à des changements. Et donc c'est au niveau de la gestion des risques que ça se passe pour moi ici, et il faut que cette stratégie renouvelée de gestion des risques, eh bien, soit robuste malgré les nouvelles formes d'incertitude auxquelles nous faisons face. Alors je vais vous parler du risque en termes de dualité. Je vais essayer de vous expliquer très brièvement pourquoi le risque est à la fois la manifestation d'un réel concret et d'un construit social. Et je vais vous parler de l'aléa et de sa prise en compte par la société. Alors là, je vais regarder ce qui est en rouge et que vous ne voyez pas là pour m'assurer que je n'oublie pas. Oui, c'est que il est important de distinguer dans ces changements deux choses. La première chose, ce sont les changes in sea level, river discharge and weather extremes, qui sont un changement dans la nature de l'aléa, la composante aléa du risque. Mais il y a aussi un changement qui se passe en même temps au niveau de l'exposition à ces aléas, qui sont population growth and increasing value of capital. Et en fait, c'est la combinaison de ces deux changements qui appelle pour des stratégies d'adaptation. On ne peut pas faire abstraction de l'un pour s'intéresser à l'autre. Ça sera très important ici. Et la deuxième chose, c'est que lorsqu'on parle de risque réel et socialement construit, d'aléas et de sa prise en compte par la société, eh bien là, on a déjà une idée du rôle que la société peut avoir dans la définition d'un objet de recherche, du rôle que peut prendre la recherche-action participative. Alors, ce que je présente aujourd'hui rebondit sur un des premiers ateliers du GIS, et c'est une optique interprétative qui n'engage que nous, les trois auteurs ici. Ce qu'on a eu l'impression d'entendre en regardant les ateliers du GIS, en tout cas le premier, c'est qu'il existe un discours récent sur l'adaptation que les gens commencent à maîtriser, qui se déploie, qui se stabilise. Alors, il se promène beaucoup autour de concepts cousins comme la résilience, la vulnérabilité. Enfin, ça se promène, mais globalement, ça se stabilise. Et c'était l'objet des ateliers du GIS. Mais en même temps, il existe un discours récent sur la gestion du risque. Et c'est très récent. Ça se déploie les trois dernières années, c'est assez nouveau et assez efficace, et notamment on a de nouvelles typologies du risque qui apparaissent, et ce sont des typologies du risque qui permettent de lier la nature du risque auquel on fait face à des modes d'intervention. Et ça, c'est très important et très nouveau, et une des causes de frustration que j'avais exprimée à l'époque, c'est que en fait, il n'y a pas de fertilisation croisée entre les discours sur l'adaptation et les nouveaux discours sur les risques associés soit aux technologies émergentes, soit aux phénomènes d'un monde naturel de plus en plus anthropisé, phénomènes émergents aussi. Et puis il y a un troisième discours qui vit en même temps, qui a établi beaucoup de ponts avec le second, qui est un discours sur la qualification des savoirs dans un contexte d'incertitude. Et dans ce discours-là, il y a un accent très fort mis sur la nécessité de co-construction de leur savoir et surtout de co-construction de l'organisation des savoirs. Et ça devient un enjeu explicite dans des cadres d'intervention, de gestion du risque. Bon, là, je vous ai donné quelques auteurs clés, Ortwin Renn, Klinke, Van der Sluis, Van Est et Riphagen, mais il y a une tripotée de gens qui écrivent dans les trois dernières années. Et de nouveau, ce discours-ci sur la qualification des savoirs et sur la qualification de leur organisation, eh bien, il y a très peu, pour l'instant, malheureusement, de fertilisation croisée sur l'adaptation. Et mon impression, ma réponse ici est oui, mais des gens m'ont répondu non assez vigoureusement, mais je ne sais pas encore pourquoi. Sommes-nous en présence de solitude contre-productive, de champs de connaissances qui bénéficieraient grandement à se parler et qui malheureusement ne se parlent pas encore assez? Ma réponse est oui. La réponse d'autre est non, peu importe. Et ma question centrale ici, que gagne-t-on en travaillant à la convergence de ces champs? C'est une question qu'on explore dans le cadre de ce projet qu'ils appellent Théséus. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer un exemple de comment on fait converger ça, un exemple simple parce que j'ai très peu de temps. Alors, l'intégralité de ce qui suit va s'asseoir sur ceci. Et ceci n'est pas fondamentalement nouveau, mais est nouvellement articulé, on va dire. Alors j'ai simplifié l'idée que l'aléa se transforme en risque une fois que la société l'identifie et le choisit comme étant un aléa pertinent, un aléa qui va nous occuper. Et en fait, quand on creuse ce processus de construction du risque à partir de l'aléa, on se rend compte que les groupes humains, en fait, doivent résoudre trois revendications. Des revendications où on a parfois des revendications contradictoires. La première revendication est une revendication de pertinence. En fait, les gens, les groupes humains vont engager une conversation autour du thème « Ce risque vaut-il la peine d'investir nos ressources ?» Et la première étape, c'est simplement la ressource cognitive de l'appeler risque. Est-ce qu'on est d'accord d'appeler ça risque? Est-ce que c'est simplement l'arbre qui tombe loin de tout et qui ne nous intéresse pas? Ou est-ce l'arbre qui nous tombera peut-être un jour sur le coin de la figure? Eh bien, ici, il y a des phénomènes d'instabilité que l'on voit lorsqu'on analyse les discours autour de risques émergents, où les gens négocient la pertinence de l'aléa pour savoir si ça vaut la peine de le domestiquer, de l'humaniser, de le risquiser. La deuxième revendication qui crée des phénomènes tournants au sein des échanges, ce sont des revendications sur les causalités. Et là, ce sont souvent des discussions qui vont tourner en rond de façon intéressante sur le fonctionnement du risque. Comment l'aléa se transmet-il? Comment fonctionne-t-il? D'où vient-il? Et puis, comment se transmet-il aux sociétés humaines? Quels sont les mécanismes concrets de transformation de l'aléa en risque? Et on se rend compte, et je vous donnerai des exemples à travers des corpus d'entrevues, que les gens discutent de ça. S'ils ont décidé qu'un risque était pertinent, eh bien, ils vont discuter de savoir si les mécanismes de transmission sont compris de façon homogène ou non. Et évidemment, là, il y a des questions très intéressantes. Je pense à la présentation de Renacek sur les processions. Là, on a des schémas de causalité assez clairs. que les gens comprennent. Je ne sais pas, moi j'imagine que Dieu génère un événement et qu'il faut l'apaiser d'une façon ou d'une autre. Et il est certain que si on a des compréhensions croisées et divergentes de ces causalités, eh bien on a beaucoup plus de mal à avancer pour, s'il suffit de faire une procession, pourquoi construire une digue, enfin vous imaginez. Et puis on se rend compte aussi que les gens s'engagent dans des revendications à caractère normatif. Alors, j'ai traduit ça par s'attacher à la gestion du risque. Une fois qu'on en a établi une forme de pertinence, qu'on a débattu sur la causalité, eh bien, pour gérer ce risque, est-ce que cette gestion est en congruence avec nos valeurs en tant que groupe humain ? Et donc ça, c'est le troisième débat, le troisième champ de revendication qui peut exister lorsque l'aléa se transforme en risque. Et ce qui est important ici, c'est de se rendre compte que très souvent, lorsque ceci tournoie au niveau de la sphère de prise de décision, aucune décision n'est prise. Si on n'arrive pas à tomber d'accord sur la pertinence, si on n'arrive pas à tomber d'accord sur la causalité, ou si on n'arrive pas à tomber d'accord sur la congruence avec nos valeurs, eh bien, ça se balade, mais on n'arrive pas à le faire. En fait, si on part trois pas en arrière, vu que le sujet c'est quand même l'adaptation, eh bien, par exemple, adaptation, nouveau mode de gestion d'un risque changeant et d'une exposition changeante, eh bien, l'adaptation n'aura sans doute pas lieu si on a ces discours qui n'arrivent pas à se stabiliser au niveau de la sphère de la prise de décision. Et donc, je vais illustrer ça avec l'étude de cas de cette ville qui s'appelle Santander, de cette baie qui s'appelle Santander. Alors, vous voyez que ici, c'est l'océan Atlantique. Je vous montrerai des photos de tempête après. Ceci est la baie de Santander. Ceci est la ville de Santander, un développement plus récent qui date des années 60-70 ici, je vous en parlerai plus après. Une série de plages, une flèche du nerf. Ce qu'on ne voit pas nécessairement bien, en tout cas quand on a le nez dessus, c'est qu'on a ici l'embouchure d'une rivière qui amène donc de l'eau là. Et on a cette flèche du nerf qui permet à cette eau de se balader là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en regardant Santander comme ceci? L'eau Santander est un site d'étude de cas d'inondation et de sensibilité aux tempêtes. Alors, chacune des flèches représente une zone à risque que les acteurs locaux nous ont identifiée dans le cadre de conversations. Donc, cette carte a été construite suite à une... Je pense qu'à Santander, on a conduit 18 entrevues avec différentes personnes et un focus group avec une population au sens large. Et donc, les gens nous ont indiqué les endroits qu'ils considéraient à risque. Puis, ils ont commencé à en parler. Et nous avons codé et analysé le résultat de ces entrevues. Alors, je vais aller exemple par exemple, ça va être très répétitif, mais chaque exemple est substantiellement différent, et c'est pour ça que je vous ai choisi. Alors, le premier exemple, c'est cette plage ici. Donc ici, il y a une plage, il y a une digue, et cette digue et cette plage protègent un lotissement ici qui est dans le bas-fond, avec le stade de football qui est là, un parc qui est dans l'extrême bas du bas-fond qui est ici. Et donc, on a là une plage et une digue qui protègent un lotissement. Et en écoutant les gens parler, eh bien, on se rend compte qu'il y a une espèce de consensus généralisé. Il est nécessaire de protéger ce lotissement. C'est précieux. C'est un lieu où les gens vivent, en fait, des gens avec moins de revenus que ceux qui sont capables de vivre ici. Et il est absolument pertinent, ici, d'investir des ressources dans la production de cette partie plus basse de la ville. Quand on entend les gens aussi, on entend les gens qui nous disent que leur expérience personnelle montre qu'une élévation du niveau marin, leur imaginaire, parce qu'ils ne le vivent pas concrètement là comme ça, ils ne voient pas, il y a des lieux d'étude où on voit en tout cas l'affaissement de la côte et ça permet aux gens de parler en termes d'élévation relative, mais ici ce n'est pas le cas. Et donc l'expérience montre qu'une élévation du niveau marin ou la multiplication des ondes de tempête provoquera des inondations. Donc ils ont déjà eu l'occasion de voir des moments extrêmes ou des événements extrêmes qui mettaient ce bas-fond là dans une situation de risque. Et donc, en fait, lorsqu'on regarde finement ce qu'ils nous disent, il y a une causalité sur laquelle il y a un consensus, et cette causalité est établie à partir de heuristiques enracinées dans l'expérience individuelle. Leur apprentissage de la réalité s'est fait dans un quotidien qu'ils expriment au moment où on leur parle de ces affaires-là, dans ce que je vais appeler plus simplement la vie de tous les jours. Le mot-clé ici est heuristique et expérience individuelle, c'est un peu redondant, mais l'idée, c'est bien dire que c'est enraciné dans ce qu'ils vivent au jour le jour. Dernière chose, la protection par le nourrissement a déjà lieu. Donc la protection par nourrissement de cette plage est envisagée même d'élever la digue. Eh bien, c'est très bien accepté par la population. Et donc, en fait, on se rend compte que pour eux, il s'agit d'une action souhaitable, bien en congruence avec leurs valeurs, la protection de ce bas-fond par nourrissement de la plage et élévation de la digue. Et donc ici, on est typiquement dans un cas où réfléchir à l'adaptation de cet objet-ci pour éviter des inondations futures, eh bien, est possible, est envisageable, les revendications sont stabilisées, les gens sont d'accord. Donc un premier exemple où on a ces trois revendications, pertinence, causalité et revendication normative, et ça va se passer, on peut imaginer que l'adaptation aura lieu suite à cette analyse. Il y a des conclusions plus fortes que ceci qui vous montrent. Un autre exemple, parce que je vais vous montrer des exemples où les choses se manifestent différemment, c'est cette plage ici. Alors, cette plage protège ici un complexe résidentiel hôtelier. Et en fait, lorsque ce complexe résidentiel hôtelier a été construit les pieds dans l'eau, la population localement d'abord s'y est opposée. Puis les capitaux sont arrivés quand même. Certains parlent de corruption, d'autres pas, peu importe ici. Et le lieu a été donc construit, bétonné, installé avec un hôtel et des résidences essentiellement pour migrants saisonniers, touristes ou pour des retraités. En tout cas, les gens qui ont construit ça ici devaient être conscients du risque. Alors, quand on regarde les résultats d'entre vous, les gens nous disent ce lotissement sauvage représente des ressources importantes qui sont en danger. Il semble donc pertinent d'allouer des ressources. Je dis bien pertinent. Pertinent, c'est un peu l'analyse coût-bénéfice. Est-ce que ça vaut la peine en termes de pertinence? Donc typiquement, les gens, les revendications de pertinence se stabilisent autour de cet endroit, bien qu'ils disent énormément de mal de cet endroit, vous allez le voir. L'expérience des gens montre qu'une élévation du niveau marin, même phrase que la précédente, et la multiplication des ondes de tempête provoquera des inondations. De nouveau, pour eux, la causalité est assez claire. Elle est claire pour nous tous, on n'a qu'à voir cette image pour savoir que si on construit ici, il y a une causalité. Si l'eau monte et qu'il y a des tempêtes, eh bien ça va venir envahir l'affaire. Cette causalité est établie à partir de risques individuels. J'insiste là-dessus, ce n'est pas établi à partir de savoir scientifique, etc. C'est réellement établi à partir d'expériences. Je vous montrerai des photos d'expériences individuelles après. Dernière chose, des revendications normatives. Et là, ce qu'on entend, c'est que les gens qui ont construit des maisons là, ou des immeubles, des hôtels, l'ont fait en dépit des avis informels de la population locale, en dépit des règles, disent certains, et se sont appropriés sauvagement de l'espace public. Et là, typiquement, on commence à entendre une cacophonie selon les acteurs. Certains nous disent c'est en congruence avec nos valeurs, et d'autres nous disent ce n'est absolument pas en congruence, on ne va pas mettre de l'argent public, on ne va pas transformer notre plage. C'est une évidence. Typiquement, la revendication normative n'est pas stabilisée. Et donc, la conclusion, c'est que, essentiellement, l'endroit incriminé, c'est ceci, avec énormément de reproches pour cet objet-là. Alors, on ne voit pas ça très bien à l'écran quand on a le nez dessus. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, vous. Mais typiquement, ici, procédure d'adaptation avec soutien de la communauté, non. Ça ne se passera pas. Ça ne pourrait pas se passer. Vous vous souvenez qu'au début, j'ai dit sous réserve du lieu où est prise la décision. Il est évidemment que si on prend les décisions ailleurs qu'au sein de la communauté qui était nos sujets d'entre vous, peut-être que la revendication normative verra une stabilisation autour d'une décision. Mais là, pour l'instant, on ne la voit pas. Donc, un exemple de potentielle non-adaptation en raison de revendications normatives non résolues. Alors, ça va devenir très monotone, vu que je tourne en rond autour de ces revendications. Ici, il y a une autre plage. Alors, cette plage ici que je vous dessine, c'est une plage à fonction récréative et touristique, et c'est une source de fierté pour les gens qui disent c'est la plus ancienne plage de Santander, et en outre, c'est celle qui est sur toutes les cartes postales. Donc, c'est un marqueur identitaire de Santander comme destination touristique, c'est cette plage-là. Mais lorsqu'on entend les gens, ils nous disent aussi que cette plage est une plage historique dont le seul but est d'illustrer les cartes postales. Derrière ça, ils nous expliquent qu'on la nourrit déjà 3 fois par an, que c'est très coûteux, qu'ils ne vont plus à la plage là. Les gens prennent des photos, les touristes passent, mais que ça n'a plus vraiment d'usage réel. Et on se rend compte qu'ils questionnent déjà le nourrissement de cette plage 2 à 3 fois par an. De nouveau sur des photos, je vous montrerai comment cette plage peut être effacée en une tempête. Enfin, j'espère que vous verrez ça sur les photos que je montrerai. Et donc, typiquement ici, on a des questions de pertinence qui commencent à ne plus apparaître comme clairement établies, tandis que les questions de causalité sont clairement établies, ils l'ont vu disparaître 27 fois, donc heuristique personnelle. Et ils le font déjà, donc au niveau des valeurs, alors c'est très compliqué de distinguer comme ça brutalement le normatif du pertinent, mais typiquement ici, il y a une question de coût et de bénéfice économique, investir dans l'objet pour le protéger, tandis qu'ici, c'est trouver bien, naturellement, que l'on protège cet objet. Donc typiquement ici, de nouveau, alors vous voyez ici une image de la plage. Certains d'entre vous qui connaissent l'Espagne connaissent Banco of Santander, peut-être. Bien, ceci, c'est le palais du propriétaire de cette banque qui est très influent localement. Et donc, on peut peut-être se demander si la plage est nourrie pour lui, mais ce n'est pas vraiment important. Lorsqu'on parle aux gens, ils disent non, ça commence à nous coûter trop cher au niveau de l'investissement de ressources cognitives, mais ici surtout financières. Et bien, ça ne vaut pas la peine. Et donc, on peut typiquement dire qu'ici, ça ne sera pas géré.
Je repose.
Oui, 5 minutes, très bien. Alors, un autre exemple ici sur lequel je vais aller très vite. Un lieu à risque, c'est pertinent, c'est normativement acceptable, mais typiquement, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous parlent du vent du sud, un feu qui descend des Pyrénées, comme objet de risque, tandis que d'autres nous parlent des tempêtes du nord. Et en fait, on ne sait pas très bien ce qui met ceci en danger. Et on se rend compte que les développeurs qui travaillent sur cette zone-ci ne pensent qu'en termes de risque associé aux tempêtes venant de l'Atlantique, alors que la population qui se promène ici ne parle qu'en termes d'épisodes de faune venant des Pyrénées. Et donc typiquement, ici on est dans une situation où les questions de causalité font l'objet d'un débat. Et en fait, selon la causalité, les protections sont différentes. Hein. Si on a des tempêtes du nord, eh bien il va falloir protéger les effets d'entrée dans la baie et dans l'estuaire, tandis que si c'est un vent du sud, eh bien, on va devoir mettre des brises d'âme parallèles face à cette côte-là, typiquement. Alors vous voyez, c'est pas très joli, mais comme il y a plein de plans de développement, ils ont très fort envie que ça devienne joli. Eh bien, typiquement ici, on se demande ce qui va se passer au niveau des schémas de causalité. Ok, 3 résultats clés. J'ai vu 5 minutes, c'est ça ? 3 résultats clés. Les acteurs confrontés à un risque, bon, ça n'apparaît pas nécessairement là, mais se posent prioritairement dans les conversations, dans le corpus d'entrevues que nous avons généré, des questions d'éthique, revendications normatives et de pertinence. Peut-on y investir des ressources ? C'est ça qui les intéresse. La première chose. En fait, que l'eau monte, que l'eau descende, qu'il y ait plus de vagues, qu'il y ait moins de vagues, ce n'est pas la première question. La première question, c'est est-ce que ça vaut la peine d'y mettre de l'argent ? Et est-ce que c'est en congruence avec nos valeurs ? La deuxième chose, qui est un résultat clé, c'est que les causalités qu'ils expriment ne sont pas du tout le produit de recherche, mais sont simplement le produit d'expériences individuelles avec une vision très brève de l'histoire. Et là, de nouveau, on a typiquement les questions de culture de risque dont nous a parlé plus tôt. Eh bien, pour eux, ce sont des causalités à l'échelle d'une vie qui a commencé autour de 14-15 ans, peut-être de conversation avec des parents et des grands-parents, mais c'est quand même à l'échelle d'une vie. Donc peu de place à la science. Et finalement, un dernier résultat, c'est que le trait de côte lui-même, l'interface terre-mer, est très important pour ces discussions. Je pense que c'est un résultat qui nous tenait à cœur, parce qu'on se demandait si c'était les bas-fonds, si c'était l'océan, mais non, c'est le trait de côte qui les intéresse. Que faire de ces 3 résultats en termes de savoir mobiliser et de voir arriver à la recherche action participative ? Eh bien, c'est qu'on a une série de revendications, et puis on a une série de champs de savoir qui doivent être mobilisés. Et donc, on voit par exemple, ici, dans la mesure où on parle de revendications normatives, eh bien, il faut que les gens soient capables d'exprimer les normes qui sont les leurs. Donc, je parle de mode de gouvernance délibératif pour permettre aux gens d'invoquer leurs normes dans un contexte de décision. Puis, on a des questions de causalité. Alors, ça appelle les sciences du climat, l'écologie, l'ingénierie, l'économie et tous ces machins-là. Et puis, on a des questions de pertinence, où vont se rencontrer des sciences sociales et des sciences humaines. Et en fait, la grosse question qu'on se posait à Santander et dans les 6 autres villes où on construit ce travail, c'est comment fait-on pour que ces choses se rejoignent ? Alors, j'essaie de faire un petit dessin là. Alors, évidemment, ça devient très confus quand on comprime tout, mais c'est utile. Et donc, comment faire pour que ces choses se rejoignent ? Alors, j'espère que ce sera assez clair. Et j'essaie d'identifier ce dont nous avions besoin : adaptation au changement climatique en zone côtière, les atouts de la recherche. Alors, on a besoin de réconcilier heuristique individuelle et savoir robuste. Et là, il y a la question, par exemple, du nouveau tour de Renacek. On a maintenant des savoirs historiques qui se robustifient, à défaut d'un meilleur mot. Et donc, comment fait-on pour donner ces savoirs aux gens pour que leur heuristique individuelle soit aussi teintée de la science, de nos connaissances, qu'elles soient sciences humaines, sciences sociales, histoire, tout ce qu'on veut, sciences naturelles. Donc, eh bien, une des pistes que l'on a à notre disposition pour réconcilier heuristique individuelle et savoir robuste, c'est typiquement la recherche action participative. C'est l'implication des populations et des décideurs dès le départ pour que les savoirs qui sont construits soient les leurs autant que les nôtres. Ce que l'on veut aussi, c'est qu'on veut mobiliser les savoirs en cohérence avec les questions de pertinence et de normes. Typiquement, si vous savez que nos ressources sont limitées comme chercheurs, eh bien, si nous voulons savoir où investir nos ressources afin d'adaptation, eh bien, il faut qu'il y ait cohérence aux questions de pertinence et de normes des acteurs, dans le cadre standardaire des acteurs locaux. Typiquement, ben, c'est un des buts de la recherche-action participative. On est obligé d'envisager les modes d'intervention en cohérence avec la nature du changement des aléas et de l'exposition de nouveaux recherches-actions participatives, vous avez compris. Et on doit travailler à la co-construction de la mobilisation des savoirs et de leur organisation. Je rejoins ceci. Et ça, typiquement, est au cœur de la recherche-action participative de nouveau. Et donc, j'ai simplement mis ici une petite définition de la recherche-action pour que vous l'ayez sous les yeux. Je suis presque au bout, c'est promis. La recherche-action est une méthodologie de recherche qui amène ensemble des chercheurs et des praticiens. Je considère les membres de la communauté comme des praticiens. C'est une pratique qui transgresse les frontières disciplinaires, sociales et culturelles de la connaissance. Très important si on veut réconcilier heuristique individuelle et ce que j'appelle ici savoir robuste. C'est un processus itératif et cyclique d'action et de réflexion. Là, c'est très important. Dès que je dis itératif et cyclique, je dis que c'est un processus consommateur en temps et en énergie. C'est beaucoup plus simple de faire de la recherche dans son coin. Dans son coin, par opposition aux communautés, qui a pour but de répondre aux inquiétudes pratiques des communautés. Et bon, ça continue comme ça, je manque de temps. Quelles sont les prochaines étapes, par exemple, à Santander? Eh bien, nous, indépendamment de ce volet sciences sociales du projet, nous avons des modélisateurs qui modélisent les vagues à 20, 40, 50 ans, des trucs auxquels je ne comprends rien. On a des ingénieurs qui nous proposent des structures et des structures innovantes. On a des écologistes qui nous proposent des chemins pour limiter les inondations. Et donc, c'est de mobiliser tous ces savoirs et de les amener à la rencontre de la population et de leur dire, ben voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous comprenez de ça? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est pas le but, c'est pas de leur laver le cerveau en leur disant si vous comprenez pas, on va vous apprendre, mais c'est plutôt le but de dire est-ce que c'est pertinent, est-ce que ça résout des questions de pertinence, est-ce que ça résout des questions de causalité, c'est évidemment le cœur ici, et est-ce que nous sommes à l'écoute de vos normes. Alors, juste pour vous donner une idée, là c'est la tempête de janvier 2009 à Santander, vous voyez que les vagues sont très très grandes. En janvier 2009, une des bouées au large de nos collègues ingénieurs a enregistré 26 mètres, on pense que c'est une erreur d'instrumentation, et 26 mètres c'est costaud. Mais vous voyez qu'en 2009, les heuristiques individuelles étaient au travail, elles se construisaient, les gens venaient et regardaient les vagues, ils trouvaient ça très intéressant. Et donc c'était pas tellement menaçant en fait, cette tempête, bien qu'elle soit très très impressionnante. Mais en fait, elle n'a pas fait de dégâts. Et en novembre 2010, donc il y a quelques semaines, il y a eu une tempête beaucoup plus impressionnante où l'intégralité de ces barrières-ci ont été détruites. Je vous laisse imaginer si les gens en avaient profité pour regarder ça. Et où on a enregistré des pics incroyables. Alors, de nouveau, une question de heuristique individuelle. Nos collègues modélisateurs et ingénieurs avaient prévu une vague millénale de 13 mètres. Bon. 13 mètres, donc on va construire pour la vague millénale de 13 mètres, etc. Nous avons enregistré 17 mètres ce jour-là. Et donc là, de nouveau, c'est une conversation très importante à avoir avec la communauté sur la nature des connaissances mobilisées. Alors bon, vous imaginez les résultats, il y a une voiture qui est rentrée dans un restaurant, non pas parce que le conducteur était sous, mais parce qu'il était absent. Mais le front a été inondé et les gens en ont profité. Donc ça, c'était effectivement pris en novembre, vous imaginez, comme ils avaient froid. Merci beaucoup.